d'éléments de cet enseignement qu'il nous avait fait, histoire de raviver un peu nos souvenirs et puis aussi finalement de nous donner quelques fondamentaux sur l'importance de l'adoration. Tout d'abord, nous savons que notre foi chrétienne, ce n'est pas d'abord une affaire d'adhésion à un groupe, à une sagesse ou à une morale. Ce n'est pas d'abord cela qui nous caractérise. La foi chrétienne, ce qui nous caractérise, c'est que nous avons rencontré quelqu'un. Nous avons rencontré Jésus. Même si nous vivons 2000 ans après, nous avons rencontré Jésus, nous l'avons croisé, nous l'avons touché, il nous a touchés. Et nous avons rencontré un Jésus qui non seulement était un Jésus qui a vécu et qui est mort, mais qui est un Jésus qui a vécu, qui est mort et ressuscité, et qui est ressuscité et qui est bien vivant. Et donc c'est la première raison pour laquelle l'adoration est importante, c'est parce que nous avons rencontré quelqu'un que nous pouvons passer du temps avec ce quelqu'un, avant tout le reste. Avant de passer du temps avec je ne sais quelles considérations, quels engagements, il nous faut passer du temps avec celui que nous avons rencontré, qui donne sens à notre vie et qui fait que nous sommes chrétiens, qui caractérise le fait que nous sommes chrétiens. Nous le savons, dans l'Eucharistie, Jésus est là. On va y revenir. Jésus est présent dans l'Eucharistie, d'une façon unique. Aucune présence ne l'égale. Sa présence est tellement forte que si on en avait vraiment conscience, soit on se dirait « je suis au paradis », soit on se dirait « je meurs ». Mais comme, malheureusement, je trouve ça très triste pour ce qui me concerne, je n'ai pas une foi suffisamment vive, eh bien, finalement, j'allais dire, je n'en souffre pas suffisamment. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous prenons du temps à l'adoration, pour rencontrer celui que nous avons rencontré, parce qu'il est là dans l'Eucharistie, et grandir dans cette certitude qu'il est présent dans l'Eucharistie. Qu'il est présent, que Jésus ressuscité est là, que je le rencontre dans le temps de l'Eucharistie, que je le touche, qu'il me touche. Il me regarde, je le regarde. Nous sommes dans cette expérience d'intimité avec non seulement un grand prophète, quelqu'un qui est important, qui a marqué l'histoire, qui a eu beaucoup de disciples, mais ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Le Dieu qui est au-dessus de tout, au-dessus de toute la création, plus grand que tout, ce Dieu-là se resserre. Il y a un terme grec pour dire cela, hein. Il y a une kénose, il se resserre pour être présent, c'est très mal dit, hein, pour être présent dans l'Eucharistie. Et c'est vraiment Dieu. Nous avons face à nous dans l'Eucharistie, nous l'avons à l'instant, dans la présence eucharistique, nous avons ce pain extérieurement qui reste du pain. Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut que nous croyons sans voir et nous croyons que nous le voyons dans la foi, dans les yeux du cœur, comme diront les pères de l'Église. Et puis aussi, il ne veut forcer personne. Donc ça aussi, c'est une raison, parce que si toutes les Eucharisties ont voyé Jésus, là, je crois qu'il n'y aura plus personne qui aurait le choix de ne pas le suivre. Voilà, donc il veut nous laisser cette liberté, il veut que nous regardions avec les yeux du cœur. Nous avons donc, sous les apparences du pain, je dis bien sous les apparences, quand le pain est consacré, ce ne sont que des apparences, ce n'est plus du pain. La réalité est autre. Et cette réalité, c'est Jésus, ceci est mon corps, Jésus, avec son corps, avec son âme, comme un homme, et aussi, parce qu'il était Dieu, avec sa divinité. Dieu est présent dans le pain consacré. Dieu est là. Et quand on parle évidemment de la première personne de la Trinité, enfin de la deuxième personne de la Trinité plutôt, de Jésus, eh bien évidemment, les deux autres sont pas loin. Évidemment. Alors, il faut se rappeler ce qu'est l'adoration. Alors déjà, dans la définition normale, qu'est-ce que l'adoration ? La définition universelle, c'est-à-dire pas simplement chrétienne, universelle. L'adoration, c'est... Alors, il y aurait plusieurs définitions qu'on peut trouver dans des dictionnaires, mais on en a retenu une, c'est la soumission émerveillée devant la majesté de Dieu. Simplement reconnaître que Dieu est Dieu. Donc, par exemple, nos frères musulmans adorent, quand ils s'inclinent, ils reconnaissent, c'est un acte d'adoration, l'inclinaison profonde, front contre terre, c'est un acte d'adoration. Ils reconnaissent, nous reconnaissons, c'est ce que Dieu est Dieu, et que nous ne sommes pas Dieu, donc nous sommes différents, et nous sommes des créatures. Et c'est donc, l'adoration est donc un devoir de justice. Il est juste à des créatures d'adorer leur créateur. Il est juste de rendre à celui qui leur a tout donné un culte, une adoration, une attitude spirituelle. C'est même bon signe, ça veut dire qu'on se prend pas pour Dieu, et donc qu'on est à notre place, on se met à notre place. Et ça a une conséquence immédiate, c'est que dans nos relations interpersonnelles, eh bien, en adorant Dieu, en reconnaissant Dieu et en l'adorant, eh bien, ensuite, nous ajustons nos relations les uns aux autres parce que nous ne nous prenons plus pour Dieu. Nous ne sommes plus au centre de tout. Voilà. Et donc, cette attitude, c'est l'attitude de 95% de la population mondiale. Contrairement à ce qu'on pense, en France, il y a beaucoup d'agnostiques et d'athées, mais en fait, quand on regarde dans le monde, c'est pas du tout la réalité. Il y a 95%, il y a des croyances, 95% des êtres humains vivants aujourd'hui sur Terre sont croyants. Ils croient à différentes divinités, mais ils sont croyants. Parce que, naturellement, on se dit, non, on n'est pas Dieu, il y a quelqu'un au-dessus, je viens de quelque part, et donc il y a cette conscience, l'homme a cette capacité de prendre conscience qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, et nous sommes invités à l'adorer. Et donc c'est ainsi que le premier commandement qui nous est donné dans l'Ancien Testament, avant le mystère de l'incarnation, avant que Jésus vienne, premier commandement, c'est « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu ». Et donc c'est le premier commandement, « Dieu seul tu adoreras », Jésus d'ailleurs va le rappeler, c'est le premier commandement, même s'il rajoute un deuxième, il colle un deuxième, il n'empêche que le premier reste toujours le premier, mais inséparablement du deuxième. Mais le premier est là, tout le temps. Donc c'est une invitation à tout homme d'adorer, de reconnaître que Dieu est Dieu, et d'adorer. C'est une attitude de justice. Il est juste que nous ayons ce rapport vis-à-vis de Dieu. Que nous reconnaissions sa grandeur et sa divinité, et que nous l'adorions à ce titre. Cette juste attitude envers Dieu permet donc une juste attitude aussi les uns vis-à-vis des autres. Parce que d'un seul coup, on se met à la juste place dans le monde. Et même par rapport à la création, par exemple. Enfin, on pourrait dire aussi, on pourrait développer, je pense, mais voilà. Alors maintenant, quelle est la définition de l'adoration chrétienne? Eh bien, la définition de l'adoration chrétienne, c'est que tout passe par Jésus. Le véritable adorateur du Père, dans l'Esprit Saint, c'est Jésus. Jésus nous a montré l'exemple, il l'a fait de façon parfaite. Il l'a fait durant sa vie terrestre, et puis, il l'a fait durant sa vie terrestre, durant les temps de prière qu'on trouve dans les évangiles, on voit Jésus qui prie des nuits entières, etc., qui donc adore son Père, qui invite à honorer son Père comme il se doit, et il l'a fait, mais jusqu'à un point étonnant qui nous interpelle, et il l'a fait jusqu'à donner sa vie. Il l'a fait jusqu'à donner sa vie par amour de son Père, par fidélité, par obéissance à son Père, et puis aussi par amour pour nous, puisque comme je vous le disais, les deux vont ensemble et s'ajustent. Donc il l'a fait et ça reste un exemple, Jésus reste un exemple, et quand nous voulons adorer, eh bien Jésus est le chemin, la vérité, la vie, c'est lui que nous adorons pour pouvoir adorer de façon, comme dit Jésus, en esprit et en vérité, pour adorer en esprit et en vérité, nous passons par Jésus, c'est le chemin. Il n'y a que ce chemin-là qui est sûr, qui est assuré, dans lequel nous ne pouvons pas nous tromper ou nous perdre. En adorant Jésus, nous adorons le Père et nous recevons l'Esprit Saint, parce que Jésus nous l'a promis. Cette relation que nous mettons avec Jésus, je parlais au début de la rencontre, cette rencontre avec Jésus est bien créée, et cette relation que nous avons avec Jésus nous met dans l'intimité de Dieu et nous donne de recevoir l'Esprit Saint qui, lui, justement, vient prier en nous. Donc voilà l'adoration chrétienne. L'adoration, c'est une adoration qui se tourne vers Jésus. Notre adoration se tourne vers Jésus et c'est une adoration qui se glisse dans l'adoration de Jésus. Hein, c'est d'ailleurs toujours la même chose en régime chrétien. Nous sommes invités non pas à faire notre business, mais à rentrer, à devenir d'autres Christ, à entrer dans la dynamique de Jésus lui-même, à entrer dans la prière de Jésus, à entrer dans la vie de Jésus, à imiter Jésus. Et c'est le meilleur modèle pour que nous puissions vivre vraiment chrétien et servir Dieu et grandir en sainteté. Ensuite, il y a l'adoration eucharistique. Hein, donc dans l'adoration chrétienne, il y a aussi l'adoration eucharistique. Alors, Jésus, eh bien, nous laisse l'Eucharistie pour que nous puissions justement l'adorer lui, sans nous tromper, pour que nous puissions vraiment nous incliner devant sa présence et vraiment l'adorer, ne pas nous tromper. C'est-à-dire qu'on pourrait, d'ailleurs certains chrétiens, hein, je pense aux protestants en particulier, font cela, ils adorent Dieu dans des salles, quand ils disent l'adoration, d'ailleurs l'adoration en régime protestant, surtout au milieu évangélique, c'est plus des temps de louange. Il n'y a pas l'adoration que nous connaissons, même si certains découvrent cela petit à petit, l'adoration silencieuse, où simplement on s'incline devant Dieu, eux c'est plus des temps de louange, des temps d'adoration, qui ont leur valeur, hein, vraiment. Mais voilà, nous en le faisant devant l'Eucharistie, eh bien, nous adorons Dieu présent dans l'Eucharistie, c'est une véritable attitude. Et l'intérêt et l'adoration est là pour nous aider à adorer Dieu vraiment, en vérité, et à l'adorer justement. Alors il y a cette image que le père Florent Massé nous avait donnée, l'image de l'avion. Il dit à l'adoration, c'est comme un avion. Il faut être à l'heure. Il faut monter dans l'avion et se laisser porter par l'avion, parce qu'après, qui conduit ? C'est pas nous. Et qui décolle ? C'est pas nous non plus. Mais par contre, on décolle avec l'avion. Et on se met à voler. On s'élève. C'est un peu la même réalité dans l'adoration. Il faut être à l'heure, parce que sinon on loupe l'avion. Et puis ensuite, il faut se laisser porter. Et en plus, ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que cet avion, le billet d'avion nous est payé. C'est-à-dire qu'il nous est offert, parce que c'est Jésus lui-même qui l'a payé, par sa croix, par son sang. Il nous a payé la possibilité de monter dans cet avion et de nous élever vers Dieu. Alors c'est un peu ça, l'adoration eucharistique, c'est qu'en fait on est complètement porté. Hein, on est invité à adorer, il faut faire le choix de s'inscrire, de venir, d'aller rencontrer Jésus, mais après tout le reste nous est offert. Et donc c'est une belle chose qui nous est donnée. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Hein, c'est dans Saint Jean, l'évangile, c'est Jésus qui dit en criant, hein, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, qu'il vienne à moi. Il faut y aller, puis après on boit. Après, tout est servi. Il y a même, c'est même pas du low cost, hein, on a même le repas servi dans l'avion. Dans le low cost, il faut payer, mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, tout est donné. Alors c'est une belle image, me semble-t-il, pour nous stimuler, pour nous rappeler comment l'adoration est vraiment un cadeau et dans lequel nous sommes invités à nous laisser prendre. Alors, quel lien y a-t-il entre la messe et l'adoration ? Je pense que vous le savez déjà bien, mais il faut se rappeler le cœur de notre foi. En raison de la mort, du mal, de la haine qui était entrée dans le monde, Dieu n'a pas voulu laisser l'homme seul et donc a envoyé son Fils. C'est le mystère de l'incarnation. Ce mystère de l'incarnation, Jésus l'a vécu dans un don de lui-même total au Père. Hein, ce que je disais, hein, c'est un acte d'adoration vis-à-vis du Père que nous sommes invités à suivre, un exemple, mais un acte total de don à nous-mêmes. Qui devenons par grâce ses frères. Ça, c'est la grâce du baptême. Et donc, l'incarnation, et cette incarnation va être couronnée par le mystère de la croix. Et c'est dans la croix que Dieu casse la spirale de la haine, du mal et de la mort pour nous donner la vie par le mystère de la croix et de la résurrection. Tout ceci, Jésus l'a enveloppé dans le Triduum Pascal, hein, c'est un ensemble, le Triduum Pascal, les trois jours de Pâques, l'a enveloppé sous un voile, le voile d'un sacrement, le sacrement de l'Eucharistie, puisque le jeudi saint, eh bien, le Christ prend le pain, le vin, et dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Et ce n'était pas que des paroles, c'était une réalité, qui était une réalité qui avait une certaine force atemporelle, puisqu'elle incluait le don de la vie de Jésus qui allait se produire le lendemain, le don total de son sang. Donc, il y a cette réalité de la mort, du don de Jésus total pour nous, pour casser la spirale de la haine et du mal, eh bien, Jésus l'a enveloppé dans l'Eucharistie, qui est son sacrifice, puisque Jésus dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Et il ajoute « Faites cela en mémoire de moi ». Et cet ajout fait que l'Église, depuis toujours, a reproduit ces mêmes gestes, c'est-à-dire le début du Triduum Pascal, en ayant conscience qu'en faisant ce geste, eh bien, la suite du Triduum Pascal était vécue, actualisée, comme on dit. Jésus, donc, se donne dans l'Eucharistie, dans la célébration de l'Eucharistie, nous avons le sacrifice unique du Christ qui est présent. Jésus se donne totalement pour nous, comme il y a 2000 ans, dans le même mouvement. Il se donne, et ainsi il nous est actualisé, il nous est rendu présent, ce qui fait que nous ne sommes pas défavorisés par rapport à ceux qui auraient vécu il y a 2000 ans auprès de Jésus, bien qu'il n'y ait pas grand monde auprès de Jésus pour accueillir les sangs de Jésus. Hein. Mais voilà. Donc, et ce sacrement nous permet de profiter de la grâce qui était donnée, comme si on y était sur le moment, au moment même. Il y a un mystère, ce mystère est vraiment grand. Et puis, donc, en vivant cela, nous vivons le sacrifice eucharistique, le sacrifice du Christ sur la croix. Hein, c'est pour ça que l'Eucharistie peut être considérée comme un sacrifice, non sanglant, mais un sacrifice réel. Et puis, le but étant que Jésus nous rejoigne, nous libère du mal, de la haine, et puis nous donne la vie et se communique à nous. Ceci est mon corps livré pour vous. Alors, il y a cette image qu'on pourrait prendre. Quand nous vivons l'Eucharistie, nous sommes un peu comme... le mystère eucharistique, on pourrait le symboliser par une enveloppe avec une lettre d'amour à l'intérieur. Souvent, nous pouvons nous arrêter à l'aspect extérieur de l'Eucharistie, à l'aspect superficiel, à l'aspect nécessaire, mais extérieur, visible. Les prêtres, les paroles, l'espace, ce qu'on vit, ce que l'on dit. Et nous pouvons rester là et puis finalement sortir de l'Eucharistie en se disant « Elle était nulle l'Eucharistie parce que l'homélie était nulle. » Ou « Elle était nulle l'Eucharistie, il y avait trop d'encens. » « Elle était nulle l'Eucharistie parce que c'était pas assez solennel comme il fallait. » Le prêtre a célébré n'importe comment. Voilà. Et on peut rester sur cette extériorité. Et là, c'est un peu comme si on recevait un courrier, on regardait l'enveloppe, on disait « C'est nul, je jette. » Et on n'ouvre pas la lettre. On n'ouvre pas l'enveloppe. Donc on ne voit pas la lettre. Or, voilà ce que nous sommes invités à faire, c'est justement... Nous qui essayons d'être des fidèles adorateurs, eh bien, nous sommes invités à dépasser, à découvrir, à saisir, non pas que l'extérieur soit pas important, hein. L'extérieur est important, parce que ça parle à nos sens, et Dieu passe par nos sens. Mais, à savoir dépasser le voile de ce qui est visible pour voir le mystère invisible. Hein, donc, c'est ce mystère de la croix de Jésus, du mystère de la mort et la résurrection de Jésus, ce mystère de l'amour divin, ce mystère trinitaire, car dans l'Eucharistie, il y a un mystère trinitaire, ce monde aussi angélique, ce monde surnaturel, ce paradis qui est ouvert. Et donc, nous sommes invités à, en faisant cette démarche, à ouvrir l'enveloppe pour y découvrir le trésor qui nous est donné, qui sont des mots d'amour, de Dieu, qui sont des encouragements, qui sont enfin tout ce qui nous est nécessaire en fait pour vivre et pour pouvoir servir Dieu et nos frères. Et donc dans l'Eucharistie, donc nous avons cette possibilité là de dépasser. Quand on fait l'adoration eucharistique, c'est comme si finalement on s'arrêtait. L'Eucharistie passe très vite, hein, même quand la messe est longue, passe très vite. C'est quand même rapide. Hein, donc l'Eucharistie, ça passe vite, et en fait, on passe facilement à côté. Hein, donc, l'adoration eucharistique nous permet de nous arrêter, de nous poser, de faire un arrêt sur image pour pouvoir avoir le temps d'ouvrir l'enveloppe, de lire la lettre, de la relire, de l'apprendre par cœur, de s'en convaincre, de goûter finalement cette grâce qui nous a été donnée dans l'Eucharistie, cette grâce qui nous est donnée en Jésus qui meurt et ressuscite pour moi, cette grâce qui nous est donnée dans cette possibilité de profiter de la vie divine. Donc voilà, on est invité, alors qu'on communie ou pas, hein, parce que même des gens qui ne peuvent pas communier sont invités à adorer, au contraire, même c'est presque une urgence, on est invité à passer du temps dans l'adoration comme pour prolonger l'événement eucharistique. Cet événement qui est l'actualisation d'un mystère passé, bien, on le prolonge et on l'intensifie. Hein, c'est même l'occasion d'intensifier la force de l'Eucharistie en adorant, prenant conscience de ce qui nous est donné. La messe est un condensé, donc un condensé que l'on peut arrêter en faisant un arrêt sur image par l'adoration pour mieux accueillir les fruits et réaliser l'amour de Dieu pour nous. Voilà. Et nous sommes invités, nous, à offrir à Dieu notre temps en acte d'adoration, du temps. C'est peut-être ce qui est le plus précieux, même si en réécoutant ce qu'il disait, j'ai pas retenu bien les chiffres, mais il disait, bon, en France, on travaille 35 heures, et savez-vous, on pense que, bon, 35 heures, donc ça veut dire qu'on a plein temps, mais savez-vous combien il y a d'heures dans la semaine? 168. Corinne, elle sait par cœur, parce qu'elle a 168 heures. Donc une fois qu'on a fait 35 heures de travail, il reste encore 133. Alors, vous enlevez la messe de la semaine, ça fait 132 heures. Il reste encore 132 heures, hein, c'est ça? Je ne me trompe pas. Hein? Ah oui, alors, chez nous, on va dire ça. À l'époque, oui, c'est ça. Chez nous, on peut dire ça. On dit 131. Il reste encore 131 heures. En fait, il reste encore quand même du temps, hein, dans la semaine. Donc, alors, on peut quand même encore consacrer une heure à l'adoration et offrir cette heure d'adoration, voire on peut offrir même plus, hein, mais voilà, au moins une heure d'adoration dans la semaine, à l'offrir comme les rois mages offraient l'or, l'encens et la myrrhe à notre Seigneur dans le mystère de l'incarnation. Puisque on peut faire aussi un rapprochement, on le fait rarement, mais on peut faire un rapprochement avec le mystère de la nativité, hein, l'Eucharistie. L'Eucharistie rend présent l'événement pascal, la mort et la résurrection de Jésus, mais rend présent toute la vie de Jésus. Et d'ailleurs, si vous regardez, il y avait le padre Pio qui s'était amusé à faire des petits commentaires. La célébration eucharistique dans son déploiement normal, c'est-à-dire la célébration du dimanche, eh bien, on peut vivre toutes les étapes de la vie de Jésus. Hein, la période de prédication, et puis donc le début de la messe, hein, l'arrivée du prêtre, ce mystère de l'Annonciation, et ensuite... on arrive au Gloria, et le Gloria, c'est le mystère de la nativité. Hein, voilà. Donc on peut reprendre un peu comme ça, on peut s'amuser à refaire un truc, la vie de Jésus dans le même mystère eucharistique. Donc on peut prendre ce temps, cette heure d'adoration, c'est offrir une heure comme les rois mages qui viennent adorer l'enfant Jésus. Hein, et d'ailleurs, il y a eu quelques manifestations, pas trop chez nous encore, à l'adoration ici, mais c'est arrivé que pour certains saints, il y a eu des manifestations de Jésus dans l'Eucharistie, et il se manifestait sous la forme d'un enfant. Ça a pu arriver. C'est arrivé. Voilà. Donc, comme les rois mages, et comme dit le psaume, un psaume que je n'ai pas eu le temps de rechercher, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Sachez, arrêtez-vous. Sachez que je suis Dieu. Prendre du temps pour adorer le Seigneur, parce que c'est un devoir qui est juste. C'est le signe de bonne santé mentale, de reconnaître que Dieu est Dieu. Puis ensuite, quand on est chrétien, eh bien, il y a Jésus, nous avons rencontré Jésus, il s'est manifesté à nous, nous l'avons rencontré, et nous l'adorons. Et c'est par Jésus que nous adorons le Père en vérité, et que nous recevons l'Esprit Saint. Et arrêtez, sachez que je suis Dieu, mettre en pratique cette parole. Arrêtons-nous. Voilà. Le Père Florent Racine, il ramène aussi une histoire qui l'a marqué lui personnellement dans son cheminement personnel, que je souhaite vous rappeler, parce que je me souviens qu'elle m'avait marqué à l'époque, et je pense que c'est bien qu'on se la rappelle. C'est l'histoire d'une personne qui voulait, c'était aux États-Unis. Et c'est l'histoire d'une personne qui voulait adorer dans sa paroisse, qui voulait mettre l'adoration dans sa paroisse. Alors elle va parler à son curé, le curé dit, il n'était pas contre. Il dit, bon, si vous voulez, mais trouvez des gens. Hein. Pourquoi pas, si vous voulez. Et donc, son curé lui donne l'autorisation, et elle considère qu'elle avait une mission désormais pour préparer l'adoration eucharistique de sa paroisse. Et donc, à chaque fin de messe, elle allait parler à une personne différente de l'adoration, avec des mots très très simples. Et donc, le père Florian Racine, en a profité. Avec des mots très très simples, elle dit, mais vous savez que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie? Vous savez qu'il est vraiment dans le tabernacle? Et que c'est Dieu? Et puis qu'il nous aime? Et vous savez qu'il aimerait bien qu'on vienne le voir un peu plus souvent? Donc avec des mots très simples, elle parlait de l'Eucharistie, une personne après l'autre, à chaque fin de messe. Et c'est ainsi que le Père a pu constater, lui-même il s'est inscrit, et a pu constater qu'elle a lancé l'adoration. Et l'adoration a été lancée dans cette paroisse, par cette paroissienne toute simple. Et ceci est une... je vous dis ça parce que c'est une interpellation pour nous. On cherche en permanence des adorateurs, en permanence des adorateurs. Moi, j'ai confiance que le Seigneur, je confie ça vraiment à la Vierge Marie aussi, que bon, le Seigneur se débrouille, mais enfin, il y a des moments, peut-être qu'il me dit, mais je l'entends pas, qu'il me dit, ça serait bien que tu me donnes un petit coup de main un petit peu plus, là. Parce que c'est bien beau tes appels à la fin de la messe, mais peut-être que tu peux interpeller des gens. Et cet exemple de cette femme m'interpelle et peut nous interpeller. Voilà. Alors, l'adoration perpétuelle, alors c'est aussi comme un bateau de croisière, l'adoration perpétuelle. Le bateau étant l'église ou la paroisse, et l'adoration, c'est un peu le moteur et l'hélice de la paroisse. C'est-à-dire, c'est grâce, parce que dans un bateau, ça tourne en permanence. Il ne faut pas que ça s'arrête, hein, sinon il s'arrête, le bateau, donc ça tourne en permanence. Et l'adoration perpétuelle, c'est un peu cette réalité-là. En fait, c'est central, ça ne se voit pas, c'est sous le niveau de la mer, ça ne se voit pas, mais si ça ne marche pas, le bateau est en rade. Et on ne va pas faire grand-chose. Mais si ça fonctionne, et même contre les tempêtes, voilà, le bateau est en mesure d'affronter davantage, plus facilement les tempêtes, etc. Parce qu'il y a cette réalité spirituelle qui vit et qui agit et qui tourne et qui, voilà, qui fait avancer. Donc l'adoration, c'est un peu comme ce bateau de croisière qui avance grâce à ce moteur invisible, mais présent et indispensable qu'est l'adoration. Et donc nous sommes invités, nous, à contribuer à faire tourner le moteur. Mais c'est le Seigneur qui le fait, mais quand même, nous sommes invités à être là, un peu comme les techniciens, voilà, l'avion, le bateau, voilà. Et puis, quelque chose qui est important, que vous connaissez sans doute déjà par cœur, mais dans l'adoration, il y a vraiment cette image aussi qui est tirée de l'Exode, où il y a la bataille entre le peuple hébreu et les Amalécites, et puis Moïse, au sommet de la montagne, qui tient ses bras comme ça. Et tant qu'il tient ses bras comme ça, les Hébreux sont en train de gagner. Les Amalécites, c'est le symbole du mal hein, dans l'Ancien Testament. Hein, c'est vraiment, on les voit régulièrement revenir. C'est le symbole de ceux qui veulent détruire le peuple de Dieu et détruire la relation à Dieu. Donc quand ils laissent comme ça les bras, eh bien, ils gagnent. Et dès qu'ils baissent les bras, eh bien, ils perdent. Alors qu'en bas, ils bataillent vraiment. Hein. Donc Moïse est obligé de rester comme ça une journée entière, je ne sais plus combien de temps, mais même plus. Donc voilà. Et l'adoration, c'est un peu la même chose. Cette prière continuelle, cette prière d'intercession, d'adoration, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme être sur la montagne, en train d'être des petits Moïse qui prient Dieu pour que la bataille contre le mal soit gagnée. Hein, pour que sur le terrain, dans toutes les activités apostoliques, toutes les choses, alors il y a ce qui vient de Dieu puisqu'il ne vient pas de Dieu, même dans les activités apostoliques très très bien, parfois ça ne vient pas vraiment de Dieu, donc c'est normal, ça ne marche pas trop. C'est pas très grave, on s'en fiche. Le problème, c'est pas le succès. Par contre, ce qu'il faut, c'est vaincre les puissances du mal et permettre à un maximum d'accueillir le salut de Jésus-Christ et de se sanctifier. Voilà. Et donc, voilà, être des petits Moïse. Donc, c'est une chaîne de petits Moïse qui sont sur la montagne et qui, en priant, eh bien, permettent la victoire sur le terrain. Et donc, on mesure l'importance de cette vie d'intercession, de prière. Voilà. Alors, évidemment, c'est toujours Jésus sur la croix qui sauve, mais c'est vraiment permettre à l'Eucharistie, que je vous expliquais que c'était, qui nous reliait au mystère de la croix, qui est le salut du monde. Eh bien, c'est nous relier à l'Eucharistie, donc au salut de la croix, au mystère de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus, et permettre à la mort et à la résurrection de Jésus d'avoir tout son rayonnement et d'avoir toute son efficacité sur le terrain, et le terrain de notre vie chrétienne et paroissiale. Voilà. Et puis, donc, Saint Jean-Paul II rappelait aussi dans ses catéchèses que l'adoration, c'est pas pour nous qu'on l'a fait. En fait, c'est un service. Moi, je l'ai dit parfois une fois ou l'autre, comme ça, en homélie. C'est un service. En fait, c'est un service ecclésial. On n'est pas dans. Le Seigneur a voulu que depuis à peu près le XIIIe siècle, l'adoration eucharistique se développe, et depuis assez peu de temps, finalement, l'adoration perpétuelle. Mais c'est le Saint-Esprit qui guide son Église. C'est qui en a besoin. Les combats se faisant plus intenses, les enjeux plus grands, il y a besoin d'avoir des priants, il y a besoin d'avoir de plus en plus de personnes qui montent sur le tabord, qui adorent et qui permettent au mal de se retirer, hein, qui permettent au mal de capituler. Et donc Saint Jean-Paul II rappelait dans ses catéchèses que l'adoration eucharistique, c'est un service avant d'être une démarche, une dévotion personnelle. C'est un véritable service d'Église. Et c'est vrai que il y a quelque temps, j'ai fait on faisait l'organigramme de la paroisse pour savoir un peu où on en était. En fait, logiquement, on aurait dû mettre les adorateurs. On les a pas mis parce que ça faisait un gros chiffre qui aurait un peu faussé l'ensemble. Mais on aurait dû mettre des adorateurs parce que c'est un vrai service d'Église. C'est-à-dire qu'on n'est pas, là simplement pour soi. Hein, mais on le fait pour nos frères. Et il y a cette vraie chaîne de prière, cette prière qui se succède. Il y a une vraie dimension ecclésiale, un peu comme dans une course de relais où on se passe le témoin. Et puis, grâce à cela, eh bien, on parcourt beaucoup de chemin et ça avance vite. Voilà. Alors là, je vais peut-être terminer. Alors, je vais terminer par... ça va pas terminer. C'est parce que c'est des témoignages de saints que vous connaissez peut-être déjà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Mère Teresa. Bon, j'ai peut-être un peu bateau, mais parce que Mère Teresa, on en entend beaucoup parler. Je vais prendre simplement Mère Teresa. Voilà. Lorsque vous contemplez le crucifix, vous comprenez combien Jésus vous a aimé. Lorsque vous contemplez la Sainte Hostie, vous comprenez comment Jésus vous aime en ce moment. Hein, le crucifix, c'est une image de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est une image. L'Eucharistie, c'est une réalité présente. Combien Jésus vous aime en ce moment. Voilà pourquoi vous devriez demander à votre prêtre d'instaurer l'adoration perpétuelle dans votre paroisse. Même s'il ne peut pas la promouvoir immédiatement, commencez au moins à faire une heure d'adoration par semaine. Je supplie la Vierge Marie de toucher le cœur de tous les prêtres afin qu'ils instaurent l'adoration perpétuelle dans leur paroisse et que cette dévotion se propage dans le monde entier. Notre règle ordonnait en 1973 une heure d'adoration par semaine devant le Saint-Sacrement. Nous avons beaucoup à faire, vu que nos maisons, pour les lépreux, les malades, les enfants abandonnés, sont toujours au complet. Néanmoins, nous maintenons fidèlement notre heure d'adoration quotidienne. Eh bien, depuis que nous avons introduit cette modification dans notre emploi du temps, en passant de la semaine au quotidien, notre amour pour Jésus est devenu plus intime, plus éclairé. Notre amour réciproque, plus compréhensif. Il signe entre nous une entente plus affectueuse. Nous aimons davantage nos pauvres. Et chose encore plus surprenante, le nombre des vocations a doublé chez nous. Voilà, petit témoignage de Sainte Mère Teresa, qui est derrière moi. Voilà. Et donc, voilà. Voilà, et puis je termine. Alors, le pape François encourage aussi l'adoration eucharistique. Hein, il en parle moins, mais il encourage. Et puis le pape Benoît XVI aussi, en son temps, a aussi encouragé l'adoration eucharistique, en disant que quand on prie, on ne perd pas son temps. Même quand on a beaucoup de travail. Voilà, c'est une tentation, ça. Voilà, donc nous allons en rester là. Voilà, puis peut-être je ferai la suite...